En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Ce que je vous propose, c'est le regard d'un géographe sur la forêt au profit de la réflexion du militaire. Je suis géographe, j'ai travaillé sur les forêts et les relations entre la forêt et la guerre. C'est un peu ce que je vous propose là comme réflexion en divisant en trois parties, l'espace forestier, le milieu forestier, les fonctions et les emplois. Vous aviez une photo, un dessin de la guerre en Argonne. Voici la forêt d'Argonne avec la butte de Vaucois sur la droite. L'Argonne, je vous laisse lire, la phrase se termine par « car la guerre des bois n'a pas la guerre des plaines ». Et nous rejoignons ce que nous disions tout à l'heure, avec ce que vous disiez tout à l'heure, avec cette opposition, cette perception d'une opposition entre la forêt et la plaine. Alors, qu'est-ce que la forêt ? On le situe bien, on le comprend bien. Qu'est-ce que la plaine ? Vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. C'est un peu ce que je vais aussi évoquer là. Alors, la forêt, c'est tout d'abord une enceinte difficile à pénétrer. Elle est formée d'un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est la canopée, le toit de la forêt. Le second, c'est le mur, en termes d'architecture, la lisière ou le mur. Et quand on est à l'intérieur, la lisière, c'est le combat, ici, en lisière, 1944 en Normandie. Et quand on est dessous et quand on regarde vers le haut, c'est la voûte forestière. Autrement dit, il y a un intérieur, il y a un extérieur, une surface, un dessous, et c'est une enceinte. C'est cette notion d'enceinte qui fait que, en effet, il y a sur le territoire, national ou international, à la surface du globe, des forêts et des non-forêts, et des milieux, par conséquent, fermés ou des milieux ouverts. J'ai vous présenté ici la carte Google Earth de l'Argonne et des Hauts-de-Meuse, et on peut très bien se poser cette question. Pourquoi la forêt est-elle ici? Et vous avez ici, sur la droite, la lisière de la forêt de Verdun. Depuis quand est-elle là? Et à ces questions, peut-on répondre à ces questions? Quel est l'intérêt de ces questions? Et à ces questions, la lisière, l'interface entre la forêt et l'espace ouvert peut y répondre. La lisière peut être un espace ou un lieu, une ligne de stabilité pluriséculaire. Je vous prends ici le massif de l'Argonne, où l'on voit, entre la carte d'aujourd'hui et la carte de Cassini, la stabilité de cette percée la Bièmes à l'intérieur de l'Argonne, percée qui a été, au cours de l'histoire, une stabilité de cet espace intérieur. C'est ici une autre stabilité pluriséculaire, la forêt de Mormal, qui est un élément essentiel de la combinaison des territoires dans la France du Nord et sur ses franges, sur ses marges, des voies d'invasion venant de la Belgique. Vous avez ici la croix localisant la bataille de Malplaquet sur la gauche de la chaussée Bruneau, et la chaussée Bruneau qui, pendant des siècles, plus d'un millénaire, a composé cette lisière occidentale de la forêt de Mormal. Et derrière cette lisière, toutes les structures, tous les outils, tous les acteurs de la conservation et de la préservation de cette lisière, dont les militaires, mais pas uniquement les militaires. La lisière, c'est aussi la mobilité, une mobilité séculaire, une mobilité qui peut venir dans le temps, en relation, bien sûr, avec la guerre ici. C'est, par exemple, le cas de la naissance entre 1918, j'ai pris ici la carte de Cassini, mais à la fin de la Première Guerre mondiale et aujourd'hui, la naissance de la forêt domaniale de Verdun. En effet, la lisière n'est pas qu'une limite linéaire. Je prends cet exemple de la forêt. Vous avez devant vous une futaie d'épicéa à gauche, une futaie de pin à droite, devant un champ, et une lisière qui est formée d'un simple écran linéaire, mais d'un fourré devant les résineux, d'un fourré de feuillus. Et tout ceci vit. Tout ceci a une organicité. Elle vit au rythme des saisons, elle vit au rythme des espèces, elle vit de la multiplication des échanges entre l'intérieur et l'extérieur. La lisière est un système. Et ce système, j'ai pris cet exemple-là, mais c'est vrai partout, ce système exprime des rapports de force. La lisière est une résultante spatiale de rapports de force. Par exemple, ici, c'est la création, après la Grande Guerre, de la zone rouge, et à partir de la zone rouge, la domanialisation et la forestation d'une partie de cette zone rouge. C'est la deuxième catégorie de zone rouge que vous avez derrière vous, avec les plantations d'épicéas d'un côté et les plantations de pain de l'autre. Et au premier plan, la première catégorie de zone rouge, le retour à l'agriculture. Autrement dit, la compréhension ici, si on veut en faire l'histoire, l'analyse, la compréhension d'une telle lisière, fait appel à l'histoire militaire, fait appel à la dynamique d'écosystèmes naturels et à des rapports de force sociétaux ou sociaux. Alors, ces facteurs de la mobilité des lisières peuvent être, sont naturels et humains, avec un poids respectif. La dynamique spontanée, elle existe. Elle est dans la dynamique de l'écosystème. C'est par exemple ici l'enfrichement ou l'emboisement lorsqu'on abandonne une terre agricole. C'est classique dans les piémonts pyrénéens, photo de gauche. Mais c'est aussi, à d'autres échelles et ailleurs, la plénisation, si vous voulez, comme vous le disiez tout à l'heure avec un néologisme, la transformation en plaine d'une forêt. Hein, c'est la planation aussi. On détruit l'organisation verticale structurale de la forêt, une lisière qui est aussi ici manifestement très nettement un rapport de force national et international aujourd'hui. C'est la préservation de la forêt, de l'espace, de la forêt dense tropicale, etc. Le bilan, et ça, c'est une partie fort intéressante, hein, c'est le bilan 1950-2000 des surfaces forestières du globe. Et l'on voit que là, nous sommes, et vous, j'allais dire vous êtes, oui, moi je ne suis pas militaire, mais le domaine, la forêt perçue à travers un espace potentiel de bataille et un espace de combat, eh bien, est soumis à des dynamiques dont nous avons là un bilan à l'échelle du globe en 50 ans, hein, ce qui est en particulier les pertes nettes en forêt, tout ce qui est rouge, et vous voyez les périphéries en particulier des espaces tropicaux, mais aussi la forêt boréale, hein, le rouge longeant les forêts boréales du nord, mais aussi les gains nets en forêt. Et ce qui est remarquable, et ce qui est intéressant, c'est les États-Unis, l'Europe occidentale, les pays scandinaves, où l'on a là des gains en forêt. Et je rappellerai que ces gains en forêt, si on prend la France, le minimum de couverture forestière, 1848, 8 millions d'hectares. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 16 millions d'hectares. Donc il faut balayer l'idée déjà que la France perd ses forêts. Mais c'est aussi le fait que nous avons un emboisement très fort qui conduit dans certaines régions, par exemple en Limousin, à des sensations ou des sentiments d'enfermement par les populations que les gendarmes connaissent bien, des sentiments d'enfermement à l'intérieur de régions ouvertes qui s'enfrichent, de plaines, si vous voulez, qui se transforment en forêt. La forêt, c'est aussi des milieux, hein, et vous avez là un patchwork, là, et l'heure est bonne pour regarder ce calme qui sort de ces espaces forestiers, hein, avec des toits plus ou moins denses, hein, des forêts plus ou moins ouvertes, et nous avons là, j'ai pris quelques exemples, mais c'est pas la peine d'insister là-dessus. Des indicateurs synthétiques pour une typologie militaire des forêts ont été proposés. Hein, il a été proposé dans ce numéro du Centre de doctrine d'emploi des forces de l'armée de terre en avril 2014 qui s'appelle « Doctrine d'emploi des forces terrestres en forêt ». Alors, je ne rentre pas dans le détail, vous l'avez, mais il y a deux indicateurs essentiels qui sont retenus, celui de viscosité et celui d'opacité. Viscosité définie ou traduit par la pénétrabilité dans l'espace forestier et la capacité d'évoluer de la traficabilité, et l'opacité, visibilité horizontale et verticale. Ce qui conduit alors à faire le lien avec d'autres approches beaucoup plus structuralistes, beaucoup plus écologiques ou biogéographiques de la forêt, avec des variables qui sont par exemple variables très courantes, très classiques, de taux de recouvrement. Et vous avez là une forêt fermée, le taux de recouvrement de 100%, parce que du haut le sol est invisible et du bas le ciel est invisible. À ceci, image statique, il faut bien sûr ajouter l'image dynamique. C'est la saisonnalité, c'est le fait que, oui ou non, les formations végétales perdent leurs feuilles, caducité de certains, et permanence, sans pervirance, des autres. Et c'est aussi, dans cette approche, la canopée. Et là, j'ai pris l'exemple de la canopée fermée de la forêt dense, dite sempervirente, toujours verte, mais ces canopées sont des éléments essentiels de la vision à l'intérieur, de la pénétrabilité de la vue à travers des puits de lumière, à travers un certain nombre de déchirures ou d'ouvertures naturelles, ou naturelles par exemple des tempêtes, des chablis, ou humaines, des feux, par exemple, les feux mobiles de la culture itinérante sur brûlis en est un exemple. Il est possible de classer les forêts du globe par classe de hauteur de la canopée. Et nous avons là une très intéressante carte qui montre que les hauteurs de canopée ne sont pas les plus hautes hauteurs, ne sont pas simplement les forêts tropicales denses américaines ou africaines, mais elles sont aussi dans les forêts tempérées, boréales, ou là, dans les grandes futaies, dans les grandes pessières ou les futaies de Mélètes ou autres, eh bien, vous avez des canopées très fortes. Donc, spatialisation plutôt d'un phénomène. Une variable de viscosité, c'est la stratification. Et nous pouvons identifier à travers cette variable des strates forestières, des strates en forêt, herbacées, arbustives, arborescentes, ce qui fait qu'ici ce panorama, cette vision, est celle d'une forêt à trois strates. Et la stratification peut s'appliquer à tout espace forestier. J'ai réutilisé la photo pour montrer qu'il s'individualise même dans cette masse forestière considérablement dense et inextricable. Eh bien, il peut se dégager des niveaux qui sont des niveaux, des niveaux de hauteur des houppiers. J'en ai isolé quelques-uns. La possibilité de, à travers des variables, de quantifier, de structurer et de comprendre le couvert forestier. C'est aussi les types de peuplements. Les types de peuplements qui sont les essences d'abord, ou les espèces, qu'ils soient feuillus ou résineux, et les modes de, souvent, les modes de gestion des forêts. Par exemple, ici, sur la droite, le mélange de futaie et de taillis. Le taillis étant ceci, un arbre à plusieurs troncs, mais c'est le même arbre, et puis la futaie apparaissant comme ici. Et on a un mélange classique, c'est le mélange classique, c'est ce que les soldats en 1914 ont trouvé devant eux, en plus c'était au mois de septembre, ont trouvé devant eux pour se battre et rentrer en forêt. Alors, pour les forêts tempérées, eh bien, l'ouvrage présente un tableau avec une valeur quantitative de l'indice, tactique synthétique, viscosité, opacité, et puis une valeur de quantification. Je ne reste pas sur le détail. Je passe, parce qu'il est temps. Fonction et échelon d'emploi de la forêt, avec quatre points, masque, ressources, obstacles et frontières, et puis des échelons d'emploi tactique, logistique et stratégique. Je vais passer assez rapidement en évoquant quelques questions. Le masque, c'est bien sûr se cacher, à la fois se cacher et voir. Et là, vous avez tant dans l'œuvre d'art de Maurice Denis, la batterie de 155 en forêt de Coucy, par exemple, mais Maurice Denis qui a participé, qui était dans l'équipe de la création de du camouflage. Il a travaillé sur les camouflages, et vous avez les filets de camouflage qui sont au-dessus, le camouflet en position sur une contrepente de l'Argonne en haut, et l'affranchissement de ces buts, c'est en particulier cette image très classique de la Mudra Tourne en Argonne, cet extraordinaire échafaudage qui permet de dominer, dont on a les traces encore aujourd'hui, 2015, voilà un observatoire, deux arbres observatoires allemands dans la forêt de Verdun, qui sont quasiment, ils ont survécu, et ils sont des témoins très vifs de ceci. L'effet de masque abritait la logistique, par exemple sur cette carte montre les dépôts de munitions allemands dans la forêt domaniale de Lègue dans l'Oise en 1942, et en bas les dépôts de carburant alliés dans la forêt de Cerisy en 1944. Bon, je passe, c'est bien connu. Masque, c'est démasqué. Démasqué à l'échelon logistique, c'est par exemple ici le raid des bombardiers alliés sur la forêt d'Andenne pour éliminer le centre de stockage d'essence du 18 juin 1944. J'ouvre une toute petite parenthèse que je referme tout de suite. C'est l'intérêt aussi de ce patrimoine, de la trace au patrimoine. C'est aujourd'hui un site particulièrement suivi sur le plan patrimonial, ce qui s'appelle les mares du garde général en forêt d'Andenne, où l'ONF a une politique de conservation de cet espace à grande richesse de biodiversité, comme on dit aujourd'hui. Le masque forestier, c'est à l'échelon stratégique, par exemple, la grande armée qui passe le Niémen, mais qui s'est abritée durant la nuit du 23 juin dans la forêt de Pivilski, et qui surplombe la rive gauche du fleuve et qui défile à partir du milieu de la nuit devant les tentes de l'état-major impérial. Et ce croquis nous montre le début de la pénétration de ce qui deviendra la campagne de Russie. Elle sort de la forêt. De même que la forêt en 1918 abrite une partie de la 10e armée Mangin dans la forêt de Lègue en haut ou dans la forêt de Retz-Armainvilliers. C'est le polygone qui est en bas et qui, de la même façon, abritait en 1914 un observatoire. En 1918, l'observatoire Mangin reconstruit sur le site de celui de 1914 et entre 26 et 2015, avec une réinauguration l'année prochaine, du monument Mangin qui rappelle à l'endroit exact de l'observatoire. La ressource bois, c'est aussi, et c'est ça qui est fondamental aussi, la forêt est une ressource, et en situation de guerre, où qu'on soit, ici, c'est un bûcheron de la 15e compagnie forestière canadienne, à Montfiquet en Normandie, il travaille, il est là, ils sont installés, et dès les premiers jours de la libération de la Normandie, les Canadiens, comme les forestiers français, viennent pour... Les Canadiens sont là pour exploiter la forêt sous le contrôle des forestiers français et même font venir des scieries mobiles qui viennent d'Angleterre pour fabriquer du bois normalisé pour le front. C'est aussi en 1915, ici par exemple, la normalisation, directement le passage du fascicule, enfin de comment on appelle, c'est pas le fascicule, c'est le manuel, qui est le manuel du sous-officier, le manuel du génie, fabriquant les clés normalisées, fabriquant les gabions sur la droite. Nous sommes sur des lieux d'exploitation avec le photographe qui est pédagogique. C'est un photographe pédagogique qui est chargé de montrer, puis de diffuser, de faire passer ces images sur la fabrication des bois. C'est le bois de guerre à l'échelon logistique. C'est par exemple sur la 4e armée de Champagne, une armée qui se bat dans un territoire de plaine, mais quand même morcelé, marqué par des petits bois de pin. C'est une des grandes forêts. On la connaît peu, mais la forêt de Joncherie, qui est une forêt de milieu humide le long de la Marne, qui pendant 4 ans va fournir du caillebotis. On est sur la principale usine de caillebotis de la Première Guerre mondiale, ce chemin de rondin, comme on a dit, qui était la guerre de tranchées, et vous avez sur la droite cette photographie de pose de caillebotis à l'intérieur des tranchées de la Marne. La forêt, dans l'effort de guerre à l'échelon stratégique, c'est l'organisation de la forêt de l'arrière. C'est les forêts de l'arrière. C'est la mise en œuvre de tout le capital forestier dans la gestion, dans l'apport de guerre, dans le financement, dans l'économie de guerre. Et que ce soit du côté de la gestion française, de la gestion confiée aux Canadiens, aux Américains, c'est ici par exemple une extraordinaire photo où l'on voit au gazon du Fin dans les Vosges, en septembre 1917, l'exploitation forestière de la sapinière vosgienne par les Canadiens avec une industrialisation très forte. Cela est très intéressant parce que c'est en 1914-18 la première fois pendant cette guerre de tranchées où l'appel à l'économie de l'intérieur, aux forces de l'intérieur, a conduit à une organisation sous la direction du général Chevalier, directeur du génie jusqu'en 1913, puis directeur jusqu'en 1915, puis directeur de la gestion des bois jusqu'en 1917, qui met en place le système de gestion des bois. La forêt obstacle, c'est par exemple ici les forêts sur le rideau défensif donc, que nous avons évoqué tout à l'heure, le rideau défensif serré de rivière. Et l'on voit qu'il y a là l'association entre des formes de relief. Que sont les reliefs de côte, les cuesta ici, le rebord des Hauts-de-Meuse, et en arrière, sur ces Hauts-de-Meuse, traditionnellement, classiquement, la présence de forêts qui sont des permanences historiques. En avant et bloquant la trouée de charme entre Épinal et Toul, des forêts de plaine. Et là, nous avons cette association de la plaine et de la forêt, de l'espace ouvert et fermé, bloqué par des forêts, et en particulier cet ensemble de la forêt de Mondon et de la forêt de Parois qui donne le complexe de Lunéville-Manonvillé, qui est représenté par un croquis là-haut, avec ses petits traits sur les bordures, signifiant des modes, j'ai pas la légende, mais des modes d'aménagement de la forêt et des lisières forestières en tant que bastion. La forêt est aménagée comme un véritable bastion, elle fait partie de la défense, elle est associée dans cet entonnoir avec le fort de Manonvillé. Et vous avez en bas à droite le schéma montrant qu'il n'y a pas que les deux grandes forêts, mais il y a aussi en échelon devant des petits bois forestiers. Des petits bois. Alors ça, c'est intéressant, mais on ne va pas avoir le temps d'en parler, mais simplement de l'évoquer. Comment y a-t-il ces bois? Pourquoi sont-ils là? Et ces petits bois? Et ça relève alors d'une relation entre les pouvoirs militaires et le pouvoir civil à travers toute l'histoire du XIXe siècle, depuis 1815 jusqu'en 1914, qui est la gestion du territoire, de l'espace frontalier, dont on sait qu'il deviendra nécessairement, fatalement plutôt, un espace de guerre. Et là, c'est tout un domaine, mais on pourra y répondre par des questions ou envisager d'autres moments. La forêt produit de la défense. Voici un exemple ici sur les Hauts-de-Meuse, Verdun est là. Nous sommes sur la partie sud-est du camp fortifié de Verdun. Et vous avez ici un grand massif forestier qui a été morcelé, qui a été transformé pour une part linéaire en abatis militaire, en abatis, pour assurer les liaisons visuelles entre les forts. C'est ici la participation de la gestion, la conception d'une gestion forestière associée à la fortification du territoire dans le camp retranché. Et si je prends ici le mot « ces forêts », vous avez là le fort du Roselier. Le fort du Roselier est en forêt de Sommedieu. Et en janvier 1913, l'inspecteur des eaux et forêts dit « ce nouveau déboisement va porter à 892 hectares la superficie des peuplements détruits, sur les etc. » tout en s'inclinant devant les nécessités de la défense nationale. Des forestiers ne peuvent pas ne pas regretter la disparition d'aussi beaux massifs. Agrandir encore l'étendue morne et improductive des déboisés militaires. Cette phrase est très intéressante, d'abord parce que l'inspecteur des eaux et forêts est lui-même incorporé, équivalence de grade et incorporé militairement, et il se battra dans quelques semaines dans l'armée française, et il a là des réflexes de forestier et de conception de cette suppression de la gestion forestière. Une autre image ici, nous sommes là, alors c'est le 142e, l'historique du 142e régiment d'infanterie dans la bataille des frontières, et la forêt s'associe très souvent et dans une gestion de l'espace de défense, s'associe avec d'autres éléments de défense. Et les eaux courantes ou croupissantes, les lacs et la forêt ont permis ou permettent de renforcer de porter des obstacles complémentaires, forêt plus eau, et le texte cité de Gabriel Anoto, les Allemands trouvent dans les bois les places d'armes nécessaires au rassemblement discret de leurs troupes. Et si l'on regarde, bon ça c'est un extrait d'une carte que j'ai réalisée sur les itinéraires du 143e, du 142e RI entre le 18 août et 20 septembre, ce sont des combats qui quotidiennement vont dans la forêt, se déplacent sur les lisières, traverse très rapidement les plaines, et alors là, nous avons en effet un autre effet de cloisonnement. La forêt est au contraire perçue comme un lieu d'abri, de protection, et on a ainsi le récit, c'est le livre de Simonet, je ne sais plus le titre qui a été publié. L'obstacle effraie les combattants. Voilà, ici, et c'est très symptomatique, l'Argonne. L'Argonne la contre-offensive française de sur la droite ici de la 3e armée, sur la gauche de la 4e armée, rien en forêt. L'avance se fait jusque la ligne de front le 21, puis les Allemands contre-attaquent le 22, 23 et 24. La ligne finit par se fixer le 24 septembre ici, mais on n'a toujours pas pénétré en forêt. Le lien, l'ouverture, la pénétration ne se fera que très lentement. Et on met des troupes aguerries, on met des troupes qui sont quasiment volontaires, éclaireurs et autres, pour pénétrer en forêt et pour essayer de se lier, de se rejoindre à travers le bois de la Grurie, d'un côté ou de l'autre. C'est là que naissent les fronts dans l'espace frontalier, le grand front occidental qui, lorsqu'il franchit les forêts, eh bien, s'articule et se structure différemment. Ce sont les lieux de la guerre de mine de 1815. Donc, et fin septembre, on se résout à pénétrer l'espace forestier. Dernier point, la forêt est une marche frontière aussi. Et si l'on considère ce que j'ai mis entre crochets, la forêt d'Argonne, c'est que la présence de cette forêt porte aussi une histoire européenne. C'est pendant plus de 1000 ans la frontière entre le Saint-Empire romain germanique et le comté de Champagne. Et vous avez au centre, à l'endroit où la voie romaine de Trèves à Reims passe la Bièvre, ce qu'on appelait les plaies de justice, les champs verdunois, où se sont tenues pendant des siècles des plaies de justice et des rencontres entre les rois. Et comme le dit Bernard Guéné dans le livre sur les lieux de mémoire, la frontière et l'Empire, des procès successifs que les rois doivent franchir. Or, cette Argonne devient, dans l'organisation stratégique du front, comme on l'a vu tout à l'heure, un lieu de bataille. La forêt est un élément défensif aussi des confins autrichiens. Comme disait Jean Chagnot dans un article paru dans le livre « Forêt et guerre » là, de l'Harmattan, qui date d'une quinzaine d'années maintenant, aux confins militaires de Croatie et de Slavonie, la forêt était protégée car elle constituait un obstacle à la progression des Turcs et une zone où se réfugiaient les populations. Donc nous avons une double dimension double dimension de la protection des populations civiles et des obstacles à la progression. Finalement, si on superpose siècle après siècle des mouvements de troupes, des mouvements d'armées, des allées et des retours sur l'espace européen, nous arrivons à une lecture différenciée et complémentaire entre l'espace forestier et l'espace ouvert. Si j'ai 2 minutes... je termine en disant les mobilités, en évoquant maintenant un autre point, mais qui nous intéresse au premier chef, qui vous intéresse peut-être aussi, comme il intéresse les gens qui se réuniront pour boire un coup à la COP21. Enfin bon, mais non, on ne boira pas un coup, vu les contextes actuels. On restera plutôt enfermé au Bourget pour parler de choses sérieuses. La mobilité, ça a été évoqué par plusieurs d'entre nous, la mobilité millénaire avant l'histoire, et l'on voit comment, entre le dernier glaciaire, moins 15 000 ans, et aujourd'hui, les formations végétales ont bougé et que les forêts, par exemple, regardons le bassin du Congo, où la forêt dense et la forêt mixte en vert foncé et en vert clair sont nées à partir de zones plus ou moins arides, de steppes ou de savanes. Cette mobilité millénaire, elle s'inscrit avant l'histoire. Elle s'inscrit avant l'histoire et l'histoire y ajoute, nous l'avons vu tout à l'heure avec les frontières, avec les lisières, y ajoute sa propre mobilité. Mais qu'est-ce qu'il en est demain ? Ça aussi, ça peut être, ce sont des éléments intéressants de réflexion, même de prospective. Voilà un scénario de la mobilité climatique. Et vous voyez par exemple s'étendre le domaine bioclimatique aquitain, c'est le beige de gauche, ici, et le domaine bioclimatique méditerranéen, qui est celui-ci, on n'y va pas de main morte, c'est véritablement un changement d'environnement bioclimatique. Et regardez comment, pour rejoindre la précédente communication, comment l'espace montagnard défini par les bioclimats montagnards, et non pas par les reliefs, mais par les bioclimats montagnards, régresse eux aussi. Mobilité spécifique, c'est le hêtre, par exemple. Mobilité entre les aires actuelles et les aires à l'horizon 2050. Et puis, je termine avec l'aire du chêne vert. Et derrière le chêne vert, c'est la végétation, c'est la forêt de chêne vert, qui est une forêt claire, qui est une forêt ouverte. Va-t-on vers un développement sur l'espace territorial français de sorte de forêt claire, de forêt ouverte, qui modifierait totalement la relation même de l'homme, de l'habitant, à son environnement. Je vous remercie pour votre attention, mais je termine en montrant, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, vous avez parlé des 700 mètres de verrou de la bataille d'Azincourt, mais elle s'appuie aussi sur les ailes, sur le de bois, le bois de Tramecourt, puis le bois du Sars sur la gauche, et c'est là, dans ce goulet, appuyé sur les ailes, que va se... que vont combattre les soldats. On est là devant une belle association entre la plaine et les formes d'occupation qui sont sur la plaine, élevées en hauteur, en altitude, la forêt.
Oui, j'avais une question sur, dans son livre sur la stratégie, Edvard Ludwak, qui est le stratégiste que vous connaissez aux États-Unis. Fait le reproche de manière assez caustique, assez féroce, comme il sait le faire souvent, aux Français, d'avoir tenu inutilement le saillant de Verdun pendant trop longtemps. Ils auraient dû l'abandonner, en réalité, et il leur reproche d'avoir créé ce chaudron où sont morts des centaines de milliers d'hommes pour une raison symbolique. Il fallait tenir Verdun, on pouvait pas, alors qu'on aurait très bien pu reculer le front, etc. Mais est-ce qu'il y a pas ici une autre explication qui mêlerait le fait que le système défensif de Verdun, en fait, il s'appuyait aussi sur des massifs forestiers et que finalement il y avait une logique à tenir ce n'était pas seulement un saillant mais également un point fort.
Il n'y a pas qu'un saillant. Si vous montez, moi j'ai vu des, je suis du coin, ma famille est du coin. Bon, on a des récits. En 1873, vous montez à Attonchâtel. Attonchâtel, c'est un petit village sur la crête des Hauts-de-Meuse. Vous connaissez, vous êtes de par là. Donc, on domine le saillant. C'est à l'endroit où le saillant remonte. Quand on est à Attonchâtel, la population allait, lorsque les Allemands à Rezonville ou à Gravelotte faisaient des manifestations pour l'anniversaire de la guerre au monument, aux morts de 1870, on allait là et on écoutait et on voyait presque. Pas 30 kilomètres. Ouais. Donc la frontière allemande n'est pas à 30 kilomètres. Et le long de cette hauteur des Hauts-de-Meuse, on voit pratiquement, on a l'ennemi. L'inversion des forces, l'inversion de la menace en 1870 est considérable. Metz, qui est tourné vers l'Allemagne avant, se retourne et le camp retranché de Metz vise directement la hauteur. Donc, la première est serrée de rivière. Le général Niox, dans sa géographie de la France, le dit, la première, c'est la cinquième, enfin, la première crête importante qui protège Paris, qui protège le cœur de la France, ce sont les Hauts-de-Meuse. Et déjà, à ce moment-là, c'est pour répondre un peu à votre question, en dehors du fait que l'on est Verdun, bon, il y a le traité de Verdun, il y a toute l'histoire, etc., mais il y a cette première défense, cette première barrière. Cette première barrière est percée par l'offensive du saillant de Saint-Mihiel en septembre. Les Allemands se maintiennent dans le faubourg de Chauvencourt et ils ont la voie ferrée barrée. Là, il n'y aurait pas eu la prise de Saint-Mihiel. Bon, on ne peut pas refaire c'est pas de l'Uchronie. Mais la valeur de Verdun n'en sort que plus renforcée encore. Et on a une idée qui apparaît, c'est que abandonner Verdun, abandonner les Hauts-de-Meuse dans la partie qu'on tient encore, c'est ouvrir une brèche qu'on aura du mal. Ouais. Parce que, pour une part, ça a été le point d'appui de la défense et de l'organisation serrée de rivière. Donc, il y a une dimension que Ludwak ne peut pas comprendre, parce qu'il n'est pas français.
Ça me permet de revenir à Clausewitz, et on terminera peut-être là-dessus. C'est la première ligne de défense, ou le premier point de défense, suppose que Paris est le centre de gravité de l'armée française, enfin, et puis tout simplement de la guerre à la française. Si Paris est prise, eh ben c'est fini. Et ça s'est vérifié. C'est un passage dans Clausewitz qui m'avait beaucoup frappé quand je l'ai lu pour la première fois il y a très 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 longtemps. Donc c'est toujours très compliqué. Ah, et il y a les trois dimensions, enfin politique, ce que j'appelle politique instrumentale et opérationnelle. Enfin bon, il faut tenir compte de tout. Enfin.
Si je peux, pour revenir à cette question qui m'a fort intéressé aussi de la notion de plaine, de la définition de plaine. Au pied des Hauts-de-Meuse, quand vous allez vers la Moselle, vous avez la plaine de Wavre, qui est une plaine humide, qui est dans des roches argileuses, etc., qui est couverte de bois et puis des espaces ouverts, etc. Bon, jusqu'en 1870, entre 1850 et 1870, la volonté d'aménagement ou la pensée de l'aménagement de cette forêt en termes de génie militaire était de l'aménager en conservant des masses boisées et en ouvrant des couloirs et des voies entre ces masses boisées pour voir en cas d'invasion, mais qui viennent de loin. Il aurait fallu franchir Metz, il aurait fallu franchir... Donc, des armées coalisées, mais déjà fragmentées, pénétrant par fragments, par segments, par morceaux d'armée ou autre, à l'intérieur de cette plaine de Wavre, arrivant sur les Hauts-de-Meuse, il n'y avait pas Verdun, il n'y avait rien, hein, mais arrivant sur les Hauts-de-Meuse, déjà fragmentées, et là, la contrevensie pouvait s'organiser. La forêt était là conçue comme un élément de canalisation dans les plaines. Après 1870... Le génie militaire dit « on va raser la forêt de Wavre. On va en faire un glacis de la Wavre. » Parce que ce glacis, l'armée allemande... On n'a plus d'Interland, si je puis dire, là. Hein. La première défense, c'est les Hauts-de-Meuse, et les Allemands attaquent de Metz. Si on n'a pas un espace dégagé, on ne verra rien. Or, l'armement des forts, la fortification, permet... Donc la forêt... est une sorte de terre glaise qui permet de façonner un espace. Alors quels sont les outils? Et je termine là-dessus. Quels sont les outils? Il y a deux outils. C'est on est dans un état législatif, réglementaire, réglementarisé. Bon, il faut donc passer par des lois et des règlements. Les seuls possibles, c'est autoriser ou ne pas autoriser des demandes de défrichement, et c'est l'expropriation pour cause d'utilité publique. Jusqu'en 1870, cette possibilité n'est pas du tout faite. Mais il y a beaucoup de demandes de défrichement. Et là, c'est ça qui est intéressant, je pense. C'est la relation entre ce qui est le domaine militaire, pré-guerre ou guerre, et les relations avec le civil, avec le pouvoir civil, et avec les dynamiques des sociétés. Il y a de fortes demandes de défrichement jusque vers 1860. C'est comme Rodin avec son ciseau. Le génie militaire a le ciseau. Il suffit de dire oui pour celle-là, non pour celle-là, et on modèle. À partir de 1860, et surtout 1870, il n'y a plus de demande de défrichement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend la hache, et puis... Mais c'est voir se sauver les populations, le droit à la propriété. Qu'est-ce que vous... Il y a le... Pour Verdun, pour les forts, nous sommes dans l'enceinte fortifiée, et là s'applique... l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc, vous voyez, c'est une période fascinante. Bon, j'ai pris celle-là parce que je la connais bien, de la relation aussi entre les pouvoirs civils, les pouvoirs militaires et les autorités. C'est la commission mixte des travaux publics qui travaille. Hein. Dès qu'il y a une route à ouvrir, la commission mixte des travaux publics se réunit et c'est l'officier de génie qui la préside.
Très bien. Nous comprenons maintenant pourquoi, mais il n'y avait pas besoin. On peut se passionner toute une vie pour l'étude de la forêt. Comme tous les objets du règne humain, il suffit de le prendre, de creuser suffisamment loin et profond pour que tout vienne.
De faire le pic.
Voilà, et donc, parce que tout se tient, tout simplement.
Tout se tient. Voilà.